بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاء الإسلام. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité d'être présents ce soir pour étudier quelques paroles des ahadith, quelques paroles du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là un grand bienfait de la part d'Allah Rabbul Izza de nous donner la possibilité de mieux connaître notre religion par le biais de l'étude des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons complété la dernière fois le chapitre sur Bab At-Taqwa, concernant la piété. Et c'était un chapitre, mashallah, riche en versets de Coran, en hadith. Bien évidemment, la piété, c'est la base de la foi. La piété, c'est ce qui permet à l'homme de se rapprocher réellement d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qui nous permet de ne pas tomber dans les pièges de Shaytan. C'est ce qui nous permet d'avoir une constance dans la foi. Et ça, c'est très important d'avoir une constance dans la foi. Ne sois pas ce abd, ce serviteur, qui connaît son Seigneur uniquement dans les moments de difficulté et qui, lorsqu'il trouve l'aide d'Allah, lorsqu'il trouve une situation plus agréable, plus confortable, le serviteur oublie son Seigneur, Azza wa Jal. Ne sois pas ce serviteur qui, lors des moments importants de l'année, par exemple le mois de Ramadan, ben là il se rapproche d'Allah par le biais de toutes les bonnes œuvres possibles. Et après le mois béni, ben Allah musta'an, il s'éloigne d'Allah par le biais de tous les péchés possibles. Pour éviter ces décalages de la foi, parce qu'il serait incohérent d'avoir un décalage dans sa foi en Allah. On croit en Allah, on est conscient qu'il est au-dessus de nous. On est conscient qu'on a des comptes à rendre à propos de nos actions, à propos de nos décisions. Le regard d'Allah ne change pas d'une période à l'autre. Le regard d'Allah Azza wa Jal durant le mois de Ramadan, certes, c'est un regard avec encore plus de compassion, mais le regard d'Allah Azza wa Jal sur nous, il est permanent toute l'année. Ça, ce sont des réalités de la foi. Ça, ce sont les bases de la piété, de la taqwa. Et c'est exactement ça dont nous avons besoin. Et on pense que, certainement, c'est ce qui fait défaut de la Ummah à notre époque. Même si parfois on peut dire, une expression extérieure de la religion qui est, mashallah, qui est plaisante, hein, qui est presque, voilà, on a de quoi être fier avec le nombre d'érudits, de savants, de fundis, de gens qui connaissent le Coran, les infrastructures que nous avons. Ce sont là des moyens pour se rapprocher d'Allah, sans le moindre doute. Mais à la base, il faut qu'il y ait la piété. S'il n'y a pas la piété, s'il n'a pas dans ce cœur, si le cœur n'est pas habité par l'amour d'Allah, par la crainte d'Allah, par la conviction qu'Allah nous voit, ben, ce croyant n'avancera jamais de façon constante. Et nous avons besoin de constance. C'est vraiment ce qui nous manque. Et donc, on avait complété ce chapitre sur le taqwa avec un hadith que j'estime qu'on n'avait pas suffisamment développé. J'étais un peu fatigué ce jour-là, certainement. Mais j'espère que l'essentiel du message est passé. Et j'espère que jamais on arrive à une situation où on fait le tri entre les hadiths. On dit que ça, c'est un hadith important. Ça, c'est un hadith que tout le monde connaît. Même le hadith que tout le monde connaît, subhanallah, il y a des trésors à travers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu n'imagines même pas. Même si un jour on devait revenir sur le innamal a'mal bin niyat ou bunyal islam ou ala khams, des hadiths que tout le monde connaît, les enfants ils mémorisent à la madrasa, wallahi l'azim, on aurait tout ça à apprendre. Moi premier, on aurait encore et encore à apprendre. Donc le hadith de la semaine dernière, ça paraissait être un hadith classique, basique, mais subhanallah, tellement riche de sens, à travers lequel le prophète alayhi salat wa salam nous donne les clés pour nous rapprocher d'Allah. Dit, ô musulmans, craignez Allah. Ô musulmans, faites vos 5 salats. Ô musulmans, jeûnez durant le mois de Ramadan. Ô musulmans, donnez l'aumône. et obéissez à ceux qui sont au-dessus de vous et vous accéderez au paradis de votre Seigneur. La ligne de conduite, les actions qui nous amènent vers la conclusion, vers l'aboutissement, vous accéderez au paradis de votre Seigneur, ce sont les actions du quotidien, prière ou de l'année, jeûne de Ramadan ou alors jeûne nafil, et de l'année également aumône ou alors sadaqa. Mais pourtant, le mu'min, s'il pouvait puiser de ses actions, ben assurément il se rapprocherait d'Allah. Et on avait essayé de développer la dernière fois comment est-ce que la prière nous rapproche d'Allah, comment est-ce que le monde nous rapproche d'Allah, comment est-ce que le jeûne, c'est une action qui nous donne la piété. Et donc, le plus important, c'est de faire ces actions avec une prise de conscience, réaliser ce qu'on est en train de faire et non pas répéter un schéma, et non pas répéter quelque chose qui devient parfois mécanique sans qu'on comprenne, sans qu'on arrive à donner le sens à nos actions. Qu'Allah nous accepte pour comprendre le hadith de la dernière fois et que la réalité de la prière rende nos vies, que la réalité du jeûne, du somme rende nos vies, que la réalité de l'aumône, Inch'Allah, rentre dans nos vies et qu'on arrive à puiser la lumière qu'il y a de ces actions pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, Inch'Allah, on commence un chapitre. Le frère peut rester. Il prend la clé, mais il reste. Il doit partir. Après, tu reviens, Inch'Allah. Prochaine fois. Ça, c'est Majalis de Malaïka. Celui qui vient même pour voir qu'est-ce qui se passe et puis qui s'en va, il obtient les mêmes récompenses. On aurait souhaité qu'il reste un peu plus longtemps, mais Khair, il était pressé. Ça, c'est pour. Peut-être que c'est l'action-là qui va le démarquer le jour de Qiyam. On ne sait pas quand est-ce qu'on a été accepté par Allah. On ne sait pas est-ce que c'est par une action d'éclat exceptionnelle durant le mois de Ramadan, la 27e nuit du Ramadan, ou alors ça peut être une action mais, qui nous paraît banale, mais ça a été fait avec beaucoup de sincérité. On a la fin du mois, on est une combien, la 28. On ressent l'effet de la fin du mois, là. Là, on commence à tirer les boîtes de sardines, les boîtes de thon et les pâtes, le stu cru, et quand c'est pas les pâtes premier prix. Donc, on sent que, bon, on attend, khalas, la fin du mois, on attend le nouveau mois pour avoir un peu plus de risque. Ben, dans ces moments-là où les fins du mois sont parfois difficiles, vous rencontrez quelqu'un qui vous sollicite et que, mashallah, vous avez un élan de générosité, vous lui donnez quelque chose. Pour vous avez donné, bon, c'est fini. Mais pour Allah Azza wa Jal, ça peut être une action d'éclat, une action exceptionnelle, une très grande action. Comme ce jeune qui, avant de dormir, il voulait absolument donner du lait à ses parents. Pour lui, il était inconcevable que ses parents se couchent le soir alors qu'il n'a pas ramené le lait du, subhanallah, du wadi, comment on pourrait dire ça, de l'endroit, de la prairie où il traite les chamelles. Il voulait que ses parents boivent du lait et qu'ils aient le ventre plein avant de dormir. Mais cette action-là, durant, pour toute sa vie, selon le nombre d'années qu'il a passé de l'obéissance d'Allah, c'est l'action qui a été le plus aimée par Allah Azza wa Jal. Il y a des fois où on fait quelque chose avec beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité, Allah nous ouvre une porte d'acceptation et c'est peut-être l'action qui nous démarque. Donc aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah, un autre chapitre, Bab al-Yaqin wa al-Tawakkul. Deux thèmes qui nous sont familiers, al-yaqin. Si on dit yaqin, on peut traduire par conviction. Conviction en Allah. Et at-tawakkul, on pourrait dire c'est la confiance en Allah. En français, entre conviction, certitude et confiance, on ne voit pas trop la nuance. Et ce qui distingue la langue arabe des autres langues, d'accord, quelle que soit la langue, c'est que l'arabe, même si on appelle ça des muradif, on peut appeler ça des synonymes, mais chaque terme a une connotation. Chaque terme a un sens. Et c'est ce qui fait la beauté de la langue arabe. Alors, en commentant les muhaddithin, avant de commencer le premier hadith, ils donnent un petit peu l'importance, ils expliquent l'importance de al-yaqin wa al-tawakkul. Ils disent que al-tawakkul thamara min thamarat al-yaqin. La confiance en Allah, c'est le résultat, c'est un fruit parmi les fruits de la certitude et de la conviction en Allah. C'est-à-dire, à partir du moment où on forge notre conviction en Allah, yaoumiyan, tous les jours, dans toutes les situations de la vie, ben tu parviendras à développer une qualité qui fait partie des a'mal al-quloub, qui fait partie des actions du cœur, c'est at-tawakkul al-Allah. Une confiance, mais quand on dit confiance, c'est une confiance totale en Allah, dans toutes les situations où ton cœur est avec Allah. Et quelle chance pour un croyant
d'avoir atteint ce degré où il sait s'en remettre à Allah dans toutes les situations. Il devient intouchable. C'est une créature parmi les créatures d'Allah, mais dont le cœur est avec Allah, avec son créateur. Quoi qu'il lui arrive dans la vie, que ce soit des événements positifs, des choses positives ou négatives, il s'en remet toujours à Allah. Et il trouve toujours refuge en Allah. Il y a des fois où quand on est très peiné, quand on a, comme on dit, gros sur la patate, quand on a vraiment, qu'on a connu un moment de stress ou un grand moment de tristesse, on est vraiment abattu par une nouvelle ou par une trahison, quelles que soient les difficultés ou une mauvaise nouvelle, ben, il y a des fois où on a besoin de parler à quelqu'un. On a besoin de trouver une personne qui peut nous écouter, une personne à qui nous confier. Mais nous vivons dans un monde où les choses vont tellement vite, que personne n'a le temps de vous écouter. Et quand une personne sent que tu as envie de parler longtemps, ben la personne veut courir avant que tu arrives. C'est une réalité. Parce qu'on vit à ce rythme, le travail, le aller, revenir, c'est comme ça. Alhamdulillah, il n'y a pas de métro à La Réunion. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mais sinon, ça aurait été vraiment le métro, boulot, dodo. Nous, on a l'embouteillage littoral, dodo, boulot et dodo. Ce qui est déjà pas mal. Et donc, si vous voulez vraiment que quelqu'un vous écoute, il faut payer. Soit vous allez voir un psychologue, soit vous allez voir un psychiatre, Allah protège, soit vous allez voir un sophrologue, soit vous allez voir, je ne sais pas, quel genre de professionnel. Là, il va vous écouter, mais il faut le payer, il vous écoute. C'est-à-dire qu'on arrive à une époque où peu de gens ont envie de donner de son temps à son prochain. Et lorsqu'un être humain, normalement constitué, a le cœur lourd et rempli de chagrin, et qui ne trouve personne à qui se confier, c'est quelqu'un qui sombre dans la dépression, dans la déprime. Parce qu'il se sent incompris. Il pense, il va se renfermer sur lui-même, il va se dire que, à quoi bon, jusqu'à arriver à un extrême, à quoi bon vivre? Personne ne me comprend, personne ne m'aime, je suis seul, à quoi sert ma vie? Et puis, il peut y avoir d'autres extrêmes qu'Allah nous protège. Bien que quand un homme se sent isolé, mais l'homme n'est pas fait pour être isolé. L'homme est une créature qui a besoin de vivre en groupe, en société. Mais on est à une époque où les gens ne veulent plus. On peut vivre regroupé, mais tout en respectant, il va dire ça, la vie privée, mais on veut garder le caractère intime et individuel de notre vie. C'est une réalité. Maintenant, imaginez ce moumine qui n'a besoin de personne. Et que lorsqu'il a un chagrin, il fait deux unités de prière, il lève ses mains, il s'en remet à Allah Azza wa Jal. Et qu'il trouve la réponse auprès de son Seigneur. C'est-à-dire qu'à trouver la réponse, il ne trouve pas qu'Allah te répond. Allah ne répond à personne. Il ne faut pas attendre une réponse. Et ça fait partie des schémas qu'on doit bien intégrer. On ne doit pas attendre un miracle qui descend du ciel. Non. Mais Allah met dans ton cœur un apaisement. Que tu as parlé à ton Seigneur. Et tu as expliqué à Allah Azza wa Jal ce qui te chagrine, et qu'à la fin de cet entretien, on pourrait dire avec le Seigneur, tu as le cœur apaisé, comme si tu t'es confié à quelqu'un, mais tu sais que tu t'es confié au Seigneur des mondes. Et que tu sais pertinemment qu'Allah a tout compris, lui. Avant que tu démarres le premier mot, Allah, il savait déjà ce que tu allais dire. Allah sait ce qu'il y a de ton cœur, parce que la tristesse qui habite ton cœur, c'est Allah qui l'a mis. Pour t'éprouver. Et Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, on essaie de papier le fil, avait demandé au prophète alayhi salat wa salam une fois, alors qu'il expliquait le sens des épreuves, que même une épine qui te pique, d'accord, ça aussi c'est une épreuve, et par l'intermédiaire de cette épreuve, Allah pardonne les péchés et augmente ton daraja. Des fois, il nous arrive des choses bêtes. Je ne sais pas, vous vous coincez le doigt, enfin, dans la portière de la voiture, ça c'est quand même lourd ça. Des trucs un peu légers, vous piquez avec le ciseau, un petit truc tout bête, aïe, ça fait mal, dites pas de gros mots, d'accord? Ben, ça c'est une petite épreuve qu'Allah envoie. Vous dites Alhamdulillah, d'accord? Bon, devant vos collègues, dites pas ça, il va se dire qu'il est sadomaso, il a mal, il dit merci mon Seigneur, il va pas trop comprendre, d'accord? Ils vont essayer de dresser un profil psychologique, et avec un peu de chance, vous aurez peut-être fiché S si ce n'est pas déjà fait. Bref, et donc, le mu'min, à travers n'importe quelle petite épreuve, il s'en remet à Allah Azza wa Jal. Et Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, avait posé une question beaucoup plus subtile au prophète d'Allah. Qu'en est-il de la tristesse et de la mélancolie qui parfois envahit le cœur du musulman? Le prophète m'a dit que ça aussi, c'est une épreuve qui va dans le sens de al-ibtila, de l'épreuve. Ça aussi, ça fait partie de l'épreuve. Mais on va dire que c'est les premiers paliers. Il y a des fois, on n'a pas le moral. On est triste, on n'est pas bien dans sa peau, on est... ça va pas. D'accord? Mais considérez cet état de mélancolie, cet état de mal-être intérieur, ce spleen, comme il disait au 19e siècle, comme étant une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais chaque situation de tristesse, de détresse ou d'épreuve est une occasion de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc imaginez ce croyant qui arrive à donner un sens à tout ça et qui arrive à trouver le réconfort auprès de son Seigneur. Cet homme-là, c'est l'homme le plus riche au monde. Parce que dans son cœur, il y a une connexion avec son Seigneur. Donc, il n'a besoin de personne. Et dans un des hadiths qu'on avait vu dans Riyad al-Salihin il y a quelque temps, le Prophète avait donné comme conseil aux musulmans d'essayer de ne jamais tendre la main aux gens, de ne jamais demander quoi que ce soit. Le croyant, c'est quelqu'un qui arrive à se suffire de ce qu'il a, à se contenter de ce qu'Allah lui a accordé et à remercier Allah et qu'il n'est pas dépendant des gens. Il conserve une certaine intégrité et qu'il n'a besoin que de son Seigneur. Ça, c'est un homme libre. Ça, c'est la liberté. C'est quand tu es libre des gens. Tu n'as besoin de personne et tu n'as besoin que de ton Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu vis seul. Tu vis avec ton épouse, tes enfants, tu as tes collègues de bureau, tu as tes parents, sans le moindre doute. Mais tu n'as pas besoin de tendre la main. Tu as besoin de quoi que ce soit, ton Seigneur te suffit. Mais ça, c'est des hauts degrés de foi, ça. Là, comme on explique là, c'est pas que je vais, bon, ok, je mets ça en pratique dans 10 minutes. C'est pas comme si je vous dis, ben, fais le witr. La salat de witr, ça nous apporte telle récompense. Je dis, khalas, on va faire après le programme. Là, on peut mettre en pratique tout de suite. Mais ce sont là des qualités de iman. Ce sont des qualités de cœur intérieur qu'on n'arrive pas à développer d'un claquement de doigts. Ce sont des qualités qu'on obtient au fur et à mesure, progressivement, à force d'efforts. Allah nous accorde ses qualités et surtout en demandant à Allah Azza wa Jal ses qualités. Et quel est le merveilleux dua qu'on a demandé qui nous permet de demander donc à notre Seigneur le maximum de guider? Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afaf. Il faut le lire yawmiyan régulièrement. Parce qu'on demande à Allah la guider et ziyadatul iman, ziyadatul yaqin, tout ce qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. Donc pour revenir à ce qu'il disait, al-yaqin huwa quwwatul iman. والثبات حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شدة يقينه. La conviction, c'est la force de la foi. Quwwatul iman. C'est la puissance de la foi. والثبات. C'est la fermeté. Un tel degré, tu as une telle conviction en Allah que c'est comme si que tu vois de tes propres yeux tout ce qu'Allah Azza wa Jal a t'a informé et tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rapporté avec une telle conviction comme si qu'on les voit. Toutes les promesses d'Allah concernant l'au-delà, toutes les mises en garde concernant l'au-delà, ben c'est comme si que il n'y a pas besoin de... Ce n'est pas quelque chose de chimérique, ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec l'invisible, c'est qu'on est vraiment capable de... On y croit tellement avec une telle conviction, c'est comme si qu'on le voyait. Il y avait une citation, nécessaire de voir l'authenticité de cette citation, dit que les sahaba avaient atteint un tel degré de conviction que si le ciel s'ouvrait et qu'ils voyaient le monde de l'invisible, ça n'augmenterait pas leur iman. Parce que c'est comme si qu'ils le voyaient déjà depuis tout le temps, tellement ils avaient une conviction sur tout ce qu'Allah Rabbul Izzah a révélé. Hada. Fal-yaqin huwa thabatun wa iman laysa ma'ahu shak. La conviction, c'est la fermeté dans la foi, une fermeté dans laquelle il n'y a aucune place pour le doute. Jamais tu ne doutes de ton Seigneur. Très facile de dire ça. Jamais tu ne doutes de ton Seigneur. On va dire que, j'ai atteint le yaqin, alhamdoulilah, félicitations, on va fêter ça. J'ai atteint le yaqin, je n'ai jamais douté de mon Seigneur, je n'ai jamais douté de son existence. Non! Ne jamais douter de son existence, ça c'est islam, ça c'est que tu es musulman. Quand on dit ne jamais douter de ton Seigneur, c'est dans toutes les situations de la vie, même les situations les plus catastrophiques, d'accord, les plus délicates, les plus difficiles, ben là aussi, tu restes raccroché à ton Seigneur. Jamais tu ne perds un centimètre de confiance et de conviction en Allah, même si tout va mal, même si rien ne va comme tu le souhaitais, même si aucun de tes doigts n'est exaucé et que tu demandes depuis 10 ans et qu'Allah ne te donne rien, malgré ça, tu crois dur comme fer en ton Seigneur, ton yaqin ne diminue pas d'un centimètre, d'un pouce. Ça, c'est ce qu'on appelle al-yaqin wa thabat, la fermeté dans la foi. Et ça, c'est une qualité magnifique, exceptionnelle. Fayar al-ghaib, alladhi akhbar Allah anhu wa rasuluhu kana hadir bayna yadayhi. Et c'est comme si que tout ce qu'Allah nous a révélé, c'était devant ses yeux. Ça, c'est le summum de la foi, le summum du yaqin. Et quand tu as cette conviction, assurément ton cœur vit avec at-tawakkul, la confiance totale en Allah azza wa jal, que ce soit une situation où Allah t'élève, tu deviens le plus aimé, le plus riche, le plus convoité, ou dans une situation où personne ne veut de toi, tu es pauvre, tu es malade, tu as toutes les épreuves, ça ne change rien. Ta confiance en Allah, tu t'en remets à Allah dans les deux situations. Ça, c'est vraiment le summum de la foi. Wa hadha al-yaqin, et il dit, wa huwa a'la darajat al-iman. C'est le plus haut degré de foi qu'Allah nous l'accorde. Hadha al-yaqin, cette conviction, ben, il donne des fruits magnifiques. Minha at-tawakkul ala Allah. Parmi ces fruits, donc, comme on l'a dit, c'est la confiance. Et quand on dit confiance, c'est tout le temps. C'est une qualité qui reste là en permanence. Et là, il explique, wa at-tawakkul ala Allah, i'timad al-insani ala rabbih, fi zahirihi wa batinihi. La confiance en Allah, c'est lorsque l'homme arrive à s'en remettre à Allah dans toutes les situations, pour tout ce qui est extérieur, mais également ce qui est intérieur, et avoir la conviction que c'est Allah qui t'apporte le bien, et c'est Allah qui éloigne ce qui est mauvais, et non pas les gens. Et que tout est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Ça revient à ce que le prophète avait dit à Ibn Abbas. Sache que si l'humanité se réunissait contre toi pour te faire du bien, rien de plus que ce qu'Allah a déjà prédestiné. Et si le monde entier il veut te casser, il veut te faire du mal, si Allah n'a rien écrit pour toi, rien ne pourra t'atteindre. Lorsque dans les versets concernant le sihr, la sorcellerie, il est cité « وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » En expliquant ce pouvoir, d'accord, maléfique, mais ils ne peuvent rien faire, rien atteindre, « إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » sans l'autorisation d'Allah. Ça, c'est le summum de la confiance en Allah, quand on arrive à une situation où on n'a peur de rien, ni des maladies, ni de ce qui est normal ou paranormal, ni de la force, de la méchanceté des gens, on a une confiance totale en Allah Azza wa Jal. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, c'est la décision d'Allah et je l'accepte. Ça, franchement, ce gars-là, il est bon. Dites-moi où il habite, je vais le voir. Je pense qu'ils sont au Baqi'a, ils sont au Ma'la, ils sont dans le cimetière de Makkah, dans les cimetières de Médine. Eux, ils l'avaient développé, et au fur et à mesure, les générations qui sont venues après eux, ils l'avaient, mais de moins en moins jusqu'à nous, masakin, qu'Allah ait pitié de nous. Hada. Après, il y a des versets, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Celui qui a la confiance en Allah pourrait dire qu'Allah le suffit complètement. C'est-à-dire que Allah, pourrait dire, c'est une image, c'est comme si Allah remplit ton cœur. Allah te suffit, mais c'est metté à maman, de la tête aux pieds. Du lundi au dimanche, janvier à décembre, tout le temps, toute ta vie, Allah te suffit amplement, quels que soient les éléments extérieurs. Ça fait presque bizarre, dit ça. C'est pas normal, ça, de vivre comme ça. Mais ça, c'est ce que la foi, le iman t'apporte, ce que les amas ne t'apporteront pas forcément, mais c'est quelque chose que tu dois construire dans ton cœur. Et il dit également, Fafi Hatain, et dans ces deux, en développant ces deux qualités intérieures, yahsulu lil insan, l'homme atteint son maqsad, son objectif dans le dunya et dans le akhira. C'est-à-dire, tu es gagnant dans ce monde et tu es le gagnant également dans le delà, dans le akhira. Wa yastarihu wa ya'ishu mutma'innan sa'ida. Compris ça? Ya'ish, il vit mutma'innan sa'ida, avec tama'nina, le cœur apaisé. Il n'a pas peur de la crise, il n'a pas peur des maladies, il n'a pas peur des virus, il n'a peur de rien. Il sait que tout est dans les mains d'Allah. C'est un homme qui vit avec la tranquillité. Combien de personnes qui sont multimillionnaires, milliardaires? Combien de personnes qui sont riches, qui sont célèbres, qui sont en tête d'affiche, qui sont ovationnées dans tous les continents, mais qui n'ont pas la tranquillité du cœur? Qui n'ont pas cet apaisement du cœur? Alors que le mu'min, il place sa confiance en Allah. Allah met une tranquillité dans ton cœur qui te suffit amplement. Discutez avec une personne qui revient de Umrah. Il est revenu hier. Il m'explique Il dit que quand on est à Madina Munawwara, qu'Allah nous emmène tous, inshallah, qulu amin. Quand on est dans la ville du prophète, alayhi salatu wasalam, dans la masjid du prophète, le masjid Nabawi, il dit on ressent une tranquillité comme jamais on peut ressentir dans un autre endroit au monde. On peut t'amener dans un hôtel de luxe, 5 étoiles, 6 étoiles, dans le Burj Al Arab, à Dubaï, qui est un des meilleurs hôtels au monde, avec des moquettes de 20 cm, avec des sofas, avec yani, tout ce qui s'appelle confort humain, avec la clim, avec les repas. On va t'installer, il y a du confort, d'accord ? Mais la tranquillité du cœur, on ne le retrouve pas forcément. Tu peux être dans un endroit magnifique et tu penses à des soucis, tu penses à des problèmes, d'accord ? Ça arrive. Alors que, subhanallah, dans la masjid du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a une tranquillité qu'on ne retrouve pas forcément à Makkah al-Mukarrama. Mais c'est vraiment dans la masjid Nabawi, avec tout le respect qu'on a pour le masjid al-Haram de Makkah, qu'Allah nous amène également. Mais dans la masjid Nabawi, il y a une tranquillité, il y a un apaisement du cœur. C'est comme si que ton corps, ça c'est mon expression et c'est ma vision, c'est comme si que ton corps se décompose. C'est-à-dire que chaque partie de ton corps, il se sépare de toi, il est apaisé, tu ne le sens plus. Tu deviens léger et le cœur devient léger et tu es zen. Tu es zen gratuitement. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'abouger les faits. Tu es super cool. Ça, c'est le bonheur de la spiritualité. Et là, tu peux rester adossé un poteau, lire le Coran, faire le dhikrullah, envoyer des salutations sur Al-Habib, alayhi salatu wassalam. Subhanallah, des heures, sa'at, où tu ne penses pas à rentrer, à manger. Tu aimerais que cet instant ne s'arrête jamais. Ça, c'est... comment on pourrait dire ça ? Un échantillon, voilà. Un exemple, un échantillon de la tranquillité qui peut habiter le cœur d'un musulman. Je vous donne un autre exemple pour vous donner une impression ou une approche de la tranquillité intérieure. Si quelqu'un a déjà été à Makkah al-Mukarrama et qu'il a eu l'occasion de coller sa poitrine contre Al-Multazam, cet endroit qui entre la pierre noire et la porte de la Kaaba, ça fait 1,50 m. Et tout le monde veut aller là. Donc il faut être, mashallah, il faut être accepté par Allah. Tout le monde veut aller dans cet endroit de 1,50 m, ceux qui connaissent ses vertus, et qu'il est sunna de coller sa poitrine et de faire doua ici. Si une personne a pu se coller contre cet endroit de la Kaaba, ben ce qu'il ressent au moment où il fait les doua, c'est tellement magique qu'il ne souhaiterait que cet instant ne s'arrête jamais. Ton cœur s'emballe. Tac, 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 ça part. Et tu demandes des doigts que tu n'imaginais pas. Tu avais l'intention de demander réussite de mon travail, je veux réussir mon stage, mon doctorat, ma licence, mon doctorat, avoir une place telle entreprise, être recruté. Tu as plein de trucs dunyaoui dans ta tête. Marier avec un tel, il faut que ma femme, elle fasse au moins 1,79 m, que les yeux soient de couleur, les cheveux comme ça. Tous les doigts sont pris là, tac, on a une liste. Tu arrives devant des endroits comme ça, tu demandes yaqin, la mort avec iman, tu demandes que des choses qui te sont profitables. C'est-à-dire, c'est des moments qui sont, ça c'est indescriptible, et qu'Allah nous amène, qu'Allah nous permette à tous de vivre ces moments un jour. Mais ça c'est un échantillon. Et les sahaba, leur cœur était toujours habité par cette motivation et cette tranquillité, cet apaisement, parce qu'il y avait la foi qui avait trouvé sa place entièrement dans ce cœur. Et là, on arrive au Lub al-Mawdou, un premier exemple cité en introduction de ce chapitre, une situation extrême, une situation de danger de mort où le sahaba pouvait être tué, mais en plus d'être tué, voir leurs femmes réduites à l'esclavage et leurs enfants réduits à l'esclavage, et pire même. Parce que les guerres chez les Arabes, c'était des guerres atroces. C'était des guerres extrêmement cruelles. Et là, ils sont dans une situation où les ennemis à Mecca, on est à Madina Munawwara, d'accord ? Où les ennemis, avant la conquête de Mecca, où les ennemis des Quraysh, donc à Mecca, vont s'allier avec d'autres tribus hostiles aux musulmans et avec une des tribus qui avait trahi les musulmans, et qui vont essayer de convaincre une des tribus qui est à Madina cette fois-ci, pour qu'eux aussi se soulèvent de l'intérieur qu'on est musulmans, et ils vont les encercler. Ghazwatul Ahzab, la bataille du fossé, appelée également la bataille des coalisés. une des pires situations vécues par, par les Sahaba. Et dans cette situation extrême, parce qu'on a le temps de... Parce que ça, ça prend un peu de temps pour développer. On est à combien de temps là? Bon, il nous reste 19 secondes pour faire 30 minutes. Je pense qu'on va garder l'histoire pour la prochaine fois, parce qu'on a horreur de bâcler ce genre de, d'histoire. Juste le verset qui nous intéresse dans la sourate Al-Ahzab, le verset numéro 22, bismillah, on retrouve la traduction. Walamma ra'a al-mu'minun al-ahzab. Walamma ra'a al-mu'minun al-ahzab. Et quand les croyants virent les coalisés, tous ces ennemis en train de les encercler, qui essaient de les affamer, les empêcher de sortir de Médine, ils dirent: قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. Une situation extrême, ils disent quoi? Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Ils sont satisfaits. وصدق الله ورسوله. Et Allah et son messager disaient la vérité. وما زادهم. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur là? Quand il y a une situation où tu peux mourir, où ta famille peut mourir et tout, tu angoisses, tu perds la tête, tu cherches des gens qui peuvent t'aider, tu veux passer des coups de fil, tu perds la tête, tu ne sais plus quoi faire. Parce qu'on oublie qu'il faut se raccrocher avec Allah Azza wa Jal. Les Sahaba n'ont même pas eu besoin d'un discours, d'un khutbah, d'un rappel du Prophète sallam. C'était automatique, c'était une mise à l'épreuve de la part d'Allah, une mise à l'épreuve des personnes les mieux formées, qui ont connu la tarbiyah makkiyah, l'éducation à Makkah, éducation de iman, pendant combien d'années? 13 années. Et qui connaissent pendant plusieurs années l'éducation à Al-Madina, avec les hypocrites, avec les ennemis qui essaient de les attaquer, avec Badr, avec Uhud, avec différentes batailles, parfois moins connues, mais qui ont tous eu pour objectif d'éprouver leur foi et de les renforcer. Et donc, dans cette situation, ils disent... Et qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, pardon? وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Des situations où ils vont peut-être mourir dans quelques instants, le iman atteint son paroxysme. Parce qu'ils savent que ça, c'est ce qu'Allah a envoyé, et ce qu'Allah envoie, il y a un khair. Et on s'accroche à Allah. D'autres personnes se seraient complètement éloignées. Ils disent que, voilà, on suit le prophète d'Allah, on fait tout, et voilà ce qui nous arrive. Calamité, ne comprend plus rien. Donc, on verra ça la prochaine fois, en comparaison avec les hypocrites. Ça, on avait dit la dernière fois, hein, en gros. Hein. « وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ » Là, on est au verset 12. Réaction des hypocrites parmi les musulmans. D'accord? Quand ils ont vu cette situation. « وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ » Et quand les hypocrites. « وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ » Et ceux qui ont la maladie, le doute, dans le cœur, faiblesse de foi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? « فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ » « مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَالرَّسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا » Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Na'oudhu billah. Kalimatul kufr. Dit que ce qu'Allah et son messager ont promis, c'est où? C'est où? Où est le palais de César et, de, et des empereurs de Perse? Tout ce que le prophète nous avait promis, c'est où? On va mourir là, on est en train d'être encerclé, c'est la fin. D'accord? Wa idh qalat ta'ifatu minhum. Donc, après, on va pas entrer dans les tafsirs, mais ce qui est intéressant, c'est dans la même situation, une situation identique, on a la réaction de foi des mu'mines et on a la réaction de soit les hypocrites ou les personnes qui ont un iman trop faible et qui n'ont pas pu gérer l'épreuve. Et comment est-ce que le musulman dans l'épreuve, il se renforce? Et comment la personne qui a une faiblesse de foi, il se disperse et il peut même s'éloigner qu'Allah nous protège. On va essayer de bien voir ces deux situations la prochaine fois. Et avec ça, on va voir également une des situations à Uhud, l'après-Uhud. L'après-Uhud, c'est lorsqu'il y a eu ces moments difficiles qu'on connaît à Uhud et que les sahabas ont eu la nouvelle qu'Abu Sufyan revient. Abu Sufyan revient avec le reste de l'armée qui était encore là pour en finir. Et le prophète demande aux musulmans de se tenir prêts. Et comment est-ce que malgré que beaucoup d'entre eux ont perdu la vie et qu'il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu un gros choc psychologique à Uhud. Comment est-ce que les gens qui ont la foi, ils s'en remettent à Allah, dit que c'est une épreuve, on va rester ferme. Comment est-ce que la confiance en Allah permet à un croyant de se dépasser dans toutes les situations et au contraire, les situations de crise lui permettent d'augmenter sa foi. Qu'Allah nous donne la possibilité de voir ça la prochaine fois et qu'Allah remplisse nos cœurs de iman, de yaqin, de conviction, de yaqin et de tawakkul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.